Le christianisme, un culte pour Jésus. Deuxième partie, par Amanda Miller. Lorsqu'on entend le mot culte, on pense souvent à un groupe de personnes qui prêtent allégeance à un leader dérangé et charismatique qui abuse d'elle sous le couvert d'une révélation divine. Les adeptes sont souvent convaincus de la véracité d'idées bizarres et insensées, et agissent de manière qui abasourdissent et préoccupent profondément ceux qui ne font pas partie du culte, qui ont parfois la même religion. Du vivant de Jésus, les leaders religieux respectés des Juifs contestaient ces allégations à propos de son identité et craignaient les conséquences d'un nombre d'adeptes croissant. Ils conclurent que si un homme était suffisamment fanatique et offensant pour prétendre être Dieu, et agir comme Dieu, c'est qu'il était possédé par des démons et qu'il fallait le neutraliser immédiatement. On pourrait même dire qu'ils le considéraient comme un leader de culte, pour situer leur vision du monde dans le contexte contemporain. Jésus était-il donc une personne névrosée, si désillusionné à propos de son identité qu'il amenait les autres à accepter ses croyances non orthodoxes à propos de sa divinité? Comment pouvons-nous avoir la certitude que ces allégations n'étaient pas comparables à celles d'un leader de culte? Dans la première partie de cet article, nous avons examiné comment Jésus démontra la véracité de ces allégations de divinité incarnée en ressuscitant des morts, cet événement ayant été corroboré par l'histoire. Dans cette deuxième partie, nous nous pencherons sur la personnalité et les œuvres de Jésus, et nous verrons si sa vie correspond à notre compréhension moderne d'un leader de culte. Nous devons d'abord jouer carte sur table. Il ne fait nul doute que Jésus enseignait qu'il était le Fils de Dieu incarné et qu'il le croyait. Il affirmait ouvertement être Dieu et il enseignait à ses adeptes à croire en son identité pour qu'ils puissent se faire pardonner et recevoir la vie éternelle. Jean 3, 16. De telles allégations constituaient un délit criminel en vertu de la foi hébraïque et l'auteur était passible de la peine de mort. Il n'y avait que deux possibilités. Ou bien il était un leader dérangé de sa foi ou alors il était véritablement celui qu'il affirmait être. Comme C.S. Lewis l'exprimait si bien dans son ouvrage intitulé « Mere Christianity, les fondements du christianisme », n'ayons pas l'audace de dire « Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand maître moral, mais pas à accepter son allégation de divinité ». Voilà une chose qu'il ne faut pas dire. Un simple homme qui tiendrait le genre de propos que Jésus tenait ne serait pas un grand maître de moralité. Cet homme était, et est, le Fils de Dieu. Sinon, il était un fou ou pire encore. N'inventons pas des absurdités condescendantes voulant qu'il ait été un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette option. Ce n'était pas son intention. C.S. Lewis, Mere Christianity, pages 52, 40 et 41. Un leader de culte peut souvent sembler inoffensif, mais le temps révèle ce qui se trouve sous la surface d'une personne trompeuse. En général, un leader de culte fait montre d'instabilité mentale et de narcissisme. Sa fixation sur le culte et l'obéissance aveugle isolent souvent ses adeptes de la société et dissimulent au monde extérieur les types de violences qu'il leur inflige. Cependant, lorsque nous examinons le cas de Jésus, nous ne trouvons rien à propos de son tempérament, de son caractère ou de ses actes qui semblent correspondre à cette persona typique d'un leader de culte. Par exemple, au lieu de protéger l'intégrité de son image de soi, Jésus permit aux pharisiens, une secte du judaïsme, de le critiquer ouvertement et publiquement, sans chercher à riposter malgré leurs insultes. Il traita ceux qu'il aimait et qu'il adorait à ses pieds sans le moindre égotisme et sans la moindre partialité, ce qui ne correspond pas à la nature d'un leader de culte. Au lieu de couper ses adeptes du monde, il leur ordonna d'aimer et de servir tous les êtres humains. Il donna l'exemple et se montra bienveillant à l'égard de chacun, notamment les personnes inférieures de sa société et celles qui avaient commis un crime contre lui. Même jusqu'à sa mort, lorsque ses ennemis l'accusèrent d'être un blasphémateur aux intentions frauduleuses, il paya le prix ultime pour celui qu'il affirmait être et offrit de pardonner à ceux qui le crucifièrent injustement. En revanche, un leader de culte aurait peut-être emmené ailleurs ses adeptes pour leur enlever la vie et pour se suicider. De peur que la vérité soit divulguée, l'expression de son caractère était sans précédent. Son désintéressement était exempt d'indifférence et d'insociabilité, sa dignité était dépourvue d'orgueil et de présomption. Son abnégation de morosité, sa tempérance d'austérité, et il intégrait la dévotion envers Dieu en s'intéressant infatigablement au bien-être de l'humanité. Schaff, PC, 63, cité dans Evidence for Christianity, page 422. Même lorsqu'il parut devant un tribunal romain, il ne put être reconnu coupable de quoi que ce soit. Il fut condamné par les Juifs uniquement parce qu'il affirmait être Dieu. Il était parfait, et c'était un trait de caractère que même le plus grand escroc n'aurait pu parvenir à afficher. Outre sa perfection qui était une expression manifeste de sa divinité, examinons d'autres façons dont Jésus démontra son identité. En accomplissant des prophéties et en faisant des miracles. Plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires avant l'avènement de Jésus dans le monde, au moins 300 prophéties furent écrites pour annoncer qui allait être le Messie. D'une manière ou d'une autre, Jésus réalisa la totalité de ces prophéties. Personne n'aurait pu planifier ces prophéties au préalable dans le but de manipuler les adeptes d'un nouveau culte. Par exemple, si l'on calculait l'improbabilité que quiconque réalise par pur hasard, la totalité des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, ce serait aussi astronomique que de gagner à la loterie tous les jours pendant tout un siècle. Peter Kreeft, Christianity for Modern Pagan, page 264. Personne n'avait le pouvoir de manipuler le temps, les lieux, les événements et les circonstances qui entouraient sa naissance ou les événements post-mortem, comme le fit Jésus. Or, nous constatons qu'une foule d'écritures saintes décrivent dans le moindre détail les événements qui survinrent au cours de la vie de Jésus, lesquels sont corroborés par les récits bibliques et historiques. Le Talmud juif mentionne peut-être Jésus en termes méprisants, mais il ne prétend jamais que l'accomplissement des prophéties fut truqué. Pas une seule fois. Louise Lapide, The Case for Christ, page 248. Lorsque Jésus affirmait être Dieu, il étayait ses allégations en réalisant des guérisons extraordinaires et en maîtrisant les forces de la nature. Des événements comme la guérison d'une personne aveugle depuis sa naissance ou de lépreux, l'apaisement de la mer, la transformation d'eau en vin et la résurrection de mort ne peuvent être facilement expliqués d'un point de vue naturaliste. Le monde occidental pourrait rejeter toute notion de crédibilité d'un événement miraculeux, mais nous ne pouvons soupeser équitablement les éléments de preuve présentés par Jésus si nous acceptons de les examiner uniquement sous l'influence partielle d'une perspective antisurnaturaliste. Selon Bernard Rame, si les miracles peuvent être perçus par les sens, ils peuvent alors servir d'éléments de preuve dans un témoignage. S'ils sont déclarés adéquatement, le témoignage enregistré constitue une preuve aussi valide que le fait d'avoir été témoin des événements en personne. Rame, PCE, page 140, cité dans Evidence for Christianity, page 419. Pas même les plus grands critiques de Jésus n'ont pu nier les événements surnaturels dont ils avaient été témoins. Au contraire, ils conclurent que son pouvoir provenait de démons, alors qu'en réalité, il était plus plausible que son pouvoir, ses capacités et son amour provenaient du fait qu'il était Dieu. Il y a de nombreuses pistes à suivre pour enquêter sur la divinité de Jésus, mais peut-être que son plus grand miracle, c'est-à-dire sa perfection, dit tout. On pourrait écrire d'innombrables ouvrages sur la nature et les enseignements de Jésus et de fait, un grand nombre d'ouvrages ont été écrits à ce sujet au cours des deux derniers millénaires. Et c'est peut-être l'argument, contrairement à celle d'un leader de culte, sa nature divine était, et est, si manifeste pour quiconque en vient à le connaître. De même, Jésus étaya sa divinité non seulement en ressuscitant des morts, mais aussi en accomplissant les prophéties et en faisant des miracles. Ces événements furent publics, ce qui lui donne énormément plus de crédibilité qu'un leader de culte, car cela le laissa ouvert au regard critique et à l'examen de quiconque, y compris les sceptiques. Evidence for Christianity, page 419. Et nous savons que si quelqu'un ne pouvait accepter sa divinité, il ne pouvait justifier ses actes que par une puissance spirituelle démoniaque. Lorsque nous examinons la vie de Jésus pour savoir s'il était un leader de culte, tenons compte des preuves qu'il fournit pour confirmer sa divinité et posons-nous la question qu'il posa à ses propres disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16, 15. Dans un prochain article, nous nous pencherons sur l'histoire et la perpétuation du christianisme pour voir si la foi en Jésus résultait d'un dessein authentique ou d'une supercherie cultuelle.